La violence de l'étonnement peut révolutionner notre vision du monde et de nous-mêmes en remettant tout en question.
Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité.
La vraie vie, elle est ailleurs. La vraie vie, elle n'est pas dans faire beaucoup de choses, s'agiter, avoir sa Rolex à 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie, elle n'est pas là. C'est ce que nous disent les poètes depuis toujours.
On oublie qu'émerveillement ne signifie pas naïveté.
L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.
Nous sommes Pierre-Hugo Laplace et nous vous souhaitons la bienvenue sur Live4You, un podcast autoproduit pour Since Nothing. Au fil des épisodes, nous allons à la rencontre d'artistes, scientifiques ou philosophes qui, par leurs travaux, développent des discours alternatifs aux subversifs, c'est-à-dire en rupture avec nos imaginaires sociétaux actuels. Ensemble, nous déconstruisons les évidences qui nous empêchent trop souvent de percevoir l'étrangeté de notre quotidien. Quand bien même qu'il serait joyeux, dangereux, mélancolique ou amoureux, l'émerveillement a mille facettes qui n'attendent qu'à être embrassé. Nous tenons à préciser que nous basons nos entretiens sur la base de discours validés scientifiquement, rationnels ou basés sur un argumentaire solide au plus proche du réel et des faits, au-delà de nos simples interprétations afin de valider ou non certaines hypothèses et ainsi nous doter d'une nouvelle grille de lecture fiable de notre environnement. Est-ce que la vie n'est qu'une question d'obligation, de performance ou de productivisme qui chaque jour se répète au point de nous faire perdre la tête? Le voyage pour certains est un excellent moyen d'échapper à ce quotidien parfois cruel, mais que nous répondriez-vous si nous vous disions qu'il existe un moyen de transformer notre quotidien sans avoir à lui tourner le dos via la puissance de la poésie? Et c'est notamment ce que fait Arthur Perrin, notre invité du jour, pour ce nouvel épisode de notre podcast. À travers la photographie et la vidéo, Arthur se questionne sur son rapport au voyage, aux différentes pressions sociales auxquelles nous devons faire face au cours de notre vie, et comment le prosaïque, qui devrait être au service du poétique, a complètement étouffé un système sociétal, au point même de nous pousser à devoir rentabiliser chaque moment de notre vie, même nos vacances. Allez, nous laissons place à notre conversation avec Arthur.
Salut Arthur.
Salut.
Salut. Eh ben merci d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait extrêmement plaisir parce que enfin voilà on va y revenir un peu dans ce podcast, mais on t'a découvert via ton travail de vidéaste sur YouTube. Mais t'es avant tout photographe. Est-ce que tu peux pour démarrer un peu tranquillement nous expliquer un peu ton parcours et comment t'as découvert notamment la photographie?
Ouais. Alors j'ai toujours filmé, j'ai commencé à faire des petits films à 8 ans en filmant mes jouets, etc. Et ensuite j'ai jamais quitté la caméra, donc j'ai fait toutes sortes de choses, des petits sketchs sur internet, j'ai fait des petits podcasts aussi, ça il fallait y passer forcément. J'ai fait ensuite beaucoup de courts-métrages, je faisais déjà pas mal de courts-métrages quand j'étais plus jeune. Et au lycée j'ai intégré la spécialité cinéma plus l'option, donc j'avais vraiment beaucoup d'heures de cinéma par semaine. Et donc, je faisais plein de courts-métrages pour mes différentes évaluations. Donc, ça m'a vraiment bien plu. Le travail en équipe, la réalisation, etc. Vraiment, j'étais à fond sur tous les tableaux. Et à la fin du lycée, je me suis dit, je vais plutôt m'orienter vers l'image, vers la lumière. Donc, chef opérateur, cadreur, des trucs comme ça. Et donc, je me suis dit, pour faire une école de cinéma, je vais d'abord faire un BTS, soit audiovisuel, soit photo. Parce que, en fait, les deux... peuvent fonctionner, puisque en fait pour faire de l'image, bah faut avoir les bases de la photo aussi, quoi. Donc j'ai fait un BTS photo à Lyon, et à Lyon en fait j'ai découvert la photographie documentaire, notamment par le biais du reportage au début, donc sur une durée un peu plus courte, et ensuite le documentaire. Et là j'ai complètement été fasciné, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. J'ai fait plein de reportages et ensuite je me suis lancé dans du documentaire sur du assez long terme, on va dire. Et je suis complètement parti du côté de la photographie. Donc voilà, j'ai un peu délaissé la vidéo, même si j'en fais toujours et que j'aime toujours autant la vidéo. Mais c'est vrai que la photographie, c'est un peu plus simple, notamment par rapport à la fiction, parce que bah, y a pas besoin d'équipe. Je peux être tout seul à faire mon projet, en tout cas tout seul derrière l'appareil photo, la caméra. Et donc c'est pour ça que la photographie, ça m'a tout de suite parlé. On peut tout autant raconter des histoires, on peut tout autant... témoigner du réel, etc., avec de l'image fixe. Donc voilà comment je suis arrivé à la photo.
Ouais, donc parce que genre, je te présentais comme photographe, et en pensant que t'avais commencé la photographie en premier et après t'avais touché un peu la vidéo, mais en fait c'est totalement l'inverse, quoi.
Ouais, c'est l'inverse. Enfin, je suis un peu entre les deux, quoi. Ouais. J'ai surtout commencé par la vidéo quand j'étais beaucoup plus jeune. Puis après au lycée, ben, en spécialité cinéma, j'ai commencé quand même la photo, mais c'était pas forcément une photo avec une vision d'auteur, on va dire. C'était une vision de, bah, une découverte de la photographie. Donc je faisais des autoportraits, je faisais des photos de paysages, je faisais un peu de tout. Et c'est seulement après, avec mes études, que j'ai décidé d'en faire quelque chose avec la photo, quoi, en fait.
Il y a un truc qu'on trouve intéressant dans ton travail, c'est que tu as une démarche qui est quand même assez engagée. Tu expliques d'ailleurs qu'à travers la photo, tu documentes les milieux alternatifs et contestataires, et que pour toi, la photo est un moyen d'expression et de lutte pour un monde libéré et solidaire. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer d'où vient cette démarche qui est engagée dans ton travail?
Bah, ça fait assez longtemps en fait que mon travail est on va dire engagé. Moi, quand j'étais au lycée, je faisais des petits courts-métrages sur l'écologie, des trucs comme ça, donc c'était un peu bateau, mais l'idée a toujours été là. Je pense que je me suis juste politisé au lycée, et puis plus j'ai avancé, plus j'avais envie d'utiliser mon médium pour parler de cette politisation, ma vision du monde, etc. Donc forcément, au début, j'ai fait des trucs un peu clichés. Enfin, je suis allé dans le frontal, on va dire, c'est-à-dire que c'était pas forcément que ma politisation à moi, c'était aussi la politisation des autres, voir comment ils utilisaient la politique, quelle était leur stratégie, etc. C'est pour ça que j'ai fait une série qui s'appelle Les détails du bloc, qui en gros témoigne de la stratégie du Black Bloc, en fait, hein, le cortège de tête, etc., en manifestation. Donc c'est assez basique de commencer par la photo de manif, on va dire, mais c'était vraiment quelque chose qui m'intriguait, qui m'intéressait. J'ai rencontré des gens, j'ai discuté avec eux, j'ai fait toutes les manifs à Lyon pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, cette stratégie-là, et j'en ai fait un gros projet photo sur 2, 3 ans de matière, en fait. Donc voilà, c'est une manière assez frontale d'aborder la politique, hein, faire une photo de manif. Aller dans des milieux un peu contestataires, comme je l'écrivais au début, donc des éco-villages, des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte, et je me rends compte surtout, que même dans des projets qui paraissent pas forcément aussi directs en termes de politique, bah, la politique, elle est partout. Ma vision du monde, elle est partout. Donc même dans des trucs intimes, dans des séries beaucoup plus personnelles, forcément, il va y avoir un rapport au monde, à la société, au temps. Et donc forcément, ça sera politique et donc engagé, mais engagé... Par le biais de ma vision des choses, en fait.
Ouais, et puis toi, il y a du coup, en fait, depuis un peu tout le temps, t'as quand même toujours eu cette volonté de raconter des histoires. Donc, en fait, effectivement, tu mets en place tes propres moyens pour pouvoir raconter ces histoires-là, quoi.
Ouais, exactement, ouais.
Mais alors, après, je sais pas si ça rejoint exactement ce même type d'engagement, mais j'avais vu sur Instagram aussi que tu avais monté un collectif avec 3 autres photographes qui s'appelle Matin Rose.
Ouais.
Est-ce que c'est aussi, c'est pour aussi promouvoir la photo, mais est-ce que y a aussi dans ce collectif-là une envie de, voilà, enfin une démarche engagée aussi, comme tu peux le faire de façon plus individuelle?
Ouais, totalement. Bah, c'était vraiment le but. Nous, moi, quand j'ai découvert la photographie documentaire, etc., moi, j'ai été fasciné par plein de photographes assez contemporains, etc., mais qui, voilà, qui avaient accès à plein de choses, qui avaient accès à des financements, des bourses, des expositions, etc. Et avec mes amis, donc, on trouvait ça un peu insurmontable de pouvoir montrer nos projets. C'est-à-dire que nous aussi, on témoignait du monde, nous aussi, on documentait des choses. Mais on pouvait pas les montrer ailleurs que sur Internet, parce que bon, bah, sur Internet, c'est gratuit, donc heureusement, on a cette chance-là. Mais pour faire des plus grosses expos, pour se montrer nos projets, c'était plus compliqué. Donc l'idée, ça a été de se rassembler pour déjà, bah, faire collectif et donc utiliser l'intelligence collective pour être un peu plus fort dans le monde de la photographie, faire marcher le réseau, etc. Et aussi, l'idée, c'était, bah, à plusieurs de, on va dire, s'aborder un peu le monde de la photographie un peu traditionnelle, bourgeoise, etc. Et de faire nous-mêmes nos propres expérimentations en photo, donc des expos, des projections. Donc, par exemple, l'année dernière à Arles, on a organisé notre première projection. Donc, Arles, c'est vraiment l'endroit de la photographie par excellence où les plus grands photographes se retrouvent, etc. Et nous, on avait envie de montrer les jeunes photographes qui sont pas forcément représentés à Arles, qui sont même très peu représentés à Arles, hein. Enfin, c'est toujours des vieux photographes qui ont de l'expérience. Et donc le but, c'était, voilà, de sélectionner une douzaine de photographes, de les montrer à Arles lors d'une projection un peu en périphérie de la ville. Et au final, ça a super bien marché. On a eu une centaine de personnes qui sont venues, on a eu des super retours, les gens étaient contents. Et voilà, on continue sur cette lancée-là. Donc avec ces photographes-là, on va faire une exposition très bientôt. Et le titre, c'est « Ne plus attendre », le titre de l'exposition. Et c'est clairement un titre politique, engagé, etc. Parce que « Ne plus attendre », c'est juste ne pas attendre que le monde vienne à nous. C'est nous qui allons directement, par effraction, rentrer dans ce monde-là, dans le monde de la photographie, etc. On n'attend pas qu'on vienne nous chercher ou qu'on nous remarque ou qu'on monte les échelons, etc. On se montre directement, nous, en tant que jeunes photographes.
Oui, et puis en plus, tu parlais justement de la projection à Arles, c'était... En plus, dans la démarche, c'était assez cohérent parce que vous avez fait ça, je crois, j'avais vu dans un tiers-lieu à Arles et tout.
Oui, c'est ça, ouais, c'est un tiers-lieu, c'était en collaboration avec eux, on n'a pas payé, enfin, vraiment, tout était auto-organisé, en fait.
Et vous avez, suite à cette projection-là, les photographes qui ont été mis en avant, ils ont senti qu'il y a eu un petit... j'ai envie de dire un avant-après, mais ils ont senti qu'il y avait eu un petit intérêt pour leur travail de la part de voilà, d'autres personnes. Ça avait pu aussi leur élargir un peu leur horizon, quoi.
Alors, sur le monde de la photo, je sais pas du tout, j'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est que surtout les gens qui ont vu les projets étaient vraiment bouleversés. Alors après, on a choisi des projets qui nous tenaient à cœur, qui étaient vraiment très très chouettes. Donc forcément, ça allait parler aux gens. Mais c'est vrai qu'il y a du coup eu des discussions super intéressantes où vraiment des gens ont été touchés par les travaux. Parce que c'est des travaux qui parlent de plein de choses en fait, mais c'est des jeunes qui... Enfin, c'est des jeunes qui témoignent de plein de choses, de choses personnelles, intimes parfois un peu politiques, parfois ça parlait d'écologie, etc. Donc c'est des sujets qui vont toucher les gens. Et donc les gens qui étaient là vraiment étaient très contents. Il y a eu des discussions. C'était forcément, on est des jeunes, on se montre facilement, etc. Et donc les gens étaient accessibles et le public avait facilement accès aux artistes. Donc je pense que ça a dû changer aussi du festival de Arles parce que forcément le public peut interagir avec l'artiste, discuter, questionner les choses, se remettre en question. Enfin, et je trouvais que c'était assez chouette comme manière de faire. Alors après sur la retombée artistique dans le monde de l'art, je ne sais pas du tout si les photographes ont eu un coup de boost grâce à nous. Moi, à mon avis, je pense pas parce que c'était juste une petite projection. Mais par contre, sur les discussions et sur la manière d'enrichir le travail qui était projeté, je pense que là, ouais, il y a eu une plus-value.
Ouais, mais c'est déjà super intéressant déjà.
Ouais.
Mais du coup, vous aviez fait ça, enfin, c'était dans le cadre du festival ou c'était vous l'aviez fait en fait en même temps que le festival pour un peu justement en fait avoir quelque chose un peu qui fait un contre-pied.
Alors, on l'a pas fait dans le cadre du festival. Au départ, c'était vraiment en dehors de tout, donc en parallèle des rencontres. Mais on a eu la chance de rencontrer. Alors, ça, c'est vraiment le monde du réseautage et enfin du réseau, etc. On a eu la chance de rencontrer un des organisateurs du festival OFF. Donc, c'est en gros le OFF de Arles. C'est justement un deuxième festival pour les galeries et tous les lieux dans Arles qui sont pas intégrés dans les rencontres, donc c'est déjà un truc qui est en parallèle. Et on a eu la chance de pas payer parce que normalement c'est payant ce truc là donc vraiment c'était super chouette. En fait, je pense que les gens ont senti qu'on était des petits jeunes avec de l'ambition, qu'on avait envie de créer quelque chose de nouveau, etc. Et ils nous ont offert la possibilité de s'inscrire dans ce truc là donc concrètement c'était quoi, c'était en gros une espèce de publicité dans le magazine des Off. Donc je pense que ça a quand même apporté du monde. Et on était donc sur la carte des Off, on était placé, donc le tiers-lieu était placé en indiquant clairement la projection ce soir-là à 7h, etc. Donc je pense que ça nous a quand même bien aidé parce que c'est vrai que nous tout seuls pour faire la communication dans Arles, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. On a mis quand même pas mal d'affiches à droite à gauche, on a communiqué sur les réseaux sociaux, mais c'est sûr que le festival des Off à aider à faire venir du monde.
Alors pour un petit peu avancer, nous on t'a découvert avec ton travail de vidéaste pour le coup via ta chaîne YouTube où tu avais publié une vidéo et si l'aventure était de revenir où tu parles, tu évoques l'injonction au voyage et au mouvement permanent qui pousse chacun de nous à aller toujours plus loin. Est-ce que toi, déjà, est-ce que tu as souffert justement de ces injonctions ?
C'est une bonne question. Je pense pas forcément, contrairement à ce que je dis dans la vidéo. Justement, moi, je suis quelqu'un qui est pas rentré dans ces injonctions, donc je saurais pas l'expliquer, mais en tout cas, j'ai toujours refusé de rentrer dans ce système-là, de toujours découvrir le plus de choses possible, rentabiliser mon temps, etc. Mais là, pour ce premier voyage, c'était quand même une des premières fois que je ressentais ce sentiment-là et que j'ai conscientisé ce sentiment-là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler en vidéo. Et puis au-delà de ça, bon bah forcément pour cette vidéo-là, j'ai dû trouver un propos, un sujet. Donc ce sujet-là, moi, me semblait super intéressant. Mais par contre, ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas en souffrir au quotidien, heureusement pour moi. Et je pense que les gens qui en souffrent, c'est des gens qui vont pas avoir conscience de ça, qui vont sans cesse vivre avec le voyage en pensant que ça va résoudre tous leurs problèmes et que s'ils voyagent partout tout le temps en découvrant le maximum de pays, tour du monde, etc., ça va vraiment résoudre tous leurs problèmes. Et je pense que c'est ces gens-là qui finalement souffrent le plus de ces injonctions. Alors que moi et mes amis, mes camarades, qui avons justement déjà entendu parler de ces injonctions-là et qui sont attention aussi à ne pas vivre ça. Enfin, je veux dire, en gros, moi, quand j'ai acheté mon petit camion pour voyager, j'avais tout à fait conscience qu'il fallait pas tomber dans la surenchère du voyage et de la découverte. Et c'est juste que, bah, en fait, pendant ces vacances-là que je raconte pendant la vidéo, bah, je commençais à tomber dans ce truc-là, et la conclusion de la vidéo, c'était de dire finalement, j'ai réussi à ne pas succomber à l'injonction et à rester finalement à l'endroit où je voulais rester. Et donc, oui, c'est plutôt une mise en alerte pour moi-même en disant attention de ne pas tomber dans cette injonction, parce que là, à ce moment-là, tu pourrais en souffrir. Mais je ne pense pas que j'en ai souffert du coup, puisque je m'en suis rendu compte.
Ouais, est-ce que, en fait, derrière cette injonction, il peut presque y avoir, enfin, quand c'est peut-être un peu plus poussé, bah, presque, au final, peut-être les personnes qui en souffrent le plus, alors c'est pas ton cas effectivement, mais bah, finalement d'être mal dans son quotidien, puis d'attendre que le voyage en fait pour sentir mieux, et puis là c'est peut-être là où aussi ça devient problématique, quoi.
Ouais, totalement. Ça j'ai pu le ressentir quand même. C'est vrai que utiliser comme pansement de partir ou de découvrir des choses alors que le quotidien n'est pas terrible à la base, je pense que c'est pas forcément une solution. Après, je dis pas qu'il y a des solutions miracles. Enfin, je veux dire, moi, il y a des gens qui, sur Internet, vont dire il faut quitter ce quotidien-là, quitter le salariat ou autre et vivre une vie douce et paisible de voyage tout le temps. Moi, je pense pas que ça soit possible pour tout le monde. C'est une vision idéalisée de ce qu'on pourrait faire. Je pense que juste, bah, il y a des contraintes qui sont liées à la société, des contraintes sociales, etc., et qui vont faire que on n'a pas le choix de travailler, on n'a pas le choix d'avoir des quotidiens qui, des fois, sont un peu pesants. Et donc, oui, on essaie de s'émanciper le week-end ou pendant les vacances. Et bah, parfois, ça peut foutre une petite pression, quoi.
Après, c'est ce qui est peut-être dommage, c'est qu'aujourd'hui, c'est que toutes ces contraintes ont peut-être pris le dessus sur le côté peut-être plus poétique de la vie, quoi.
Ouais. Ouais, totalement.
Ce qui était vachement aussi intéressant dans ta vidéo, c'est que... Alors sans tout spoiler, mais en fait tu es retourné dans un endroit que tu connaissais déjà oui. Avec ton van et tes amis. Quand t'as pris la décision de retourner justement dans cet endroit, est-ce que à ce moment-là il y a peut-être une petite hésitation de disant bon, est-ce que comme j'ai le van, je pourrais en fait aller visiter d'autres trucs, et est-ce que c'est la bonne décision que je prends pour en retournant dans cet endroit là quoi?
Ouais, bah totalement. C'était vraiment la question pendant 2-3 jours. Alors je sais plus si je le dis dans la vidéo, mais en fait ça a commencé à me travailler quand en fait finalement je vivais des moments à des endroits qui étaient plutôt moyens, alors que j'avais connu un endroit qui était vraiment parfait pour ce que j'avais besoin. En fait, ce que j'avais besoin, c'était me détendre l'été après avoir travaillé toute l'année. Enfin bref, un truc classique que les gens vivent pendant les vacances. Et pendant 2-3 jours, ouais, j'ai hésité. Je me suis dit, mais en fait, c'est presque... Retourner à cet endroit-là, c'est presque renoncer à ce que je voulais faire à la base, c'est-à-dire faire de la van life et voyager. Et donc, ouais, il y a une petite hésitation quand même à discuter avec les amis. On était là en mode, bah, en fait, il faut quand même... découvrir d'autres endroits, ça se trouve on va découvrir encore mieux, etc. Et ce qui est sûrement le cas, et je pense que si j'avais eu plus de temps, ça aurait été encore plus intéressant de découvrir d'autres endroits. Mais avec le temps restreint que j'avais et le besoin que j'avais aussi, c'est-à-dire me détendre et me sentir bien, bah, retourner à cet endroit que j'aimais et qui était vraiment top pour les vacances, bah, finalement c'était la bonne décision. C'est vrai que j'ai mis longtemps à la prendre, ça a été long, parce que mentalement il fallait faire ce choix-là et se dire merde, en fait on a roulé, on est loin, et en même temps il y a cette injonction aussi à devoir changer de spot tous les soirs en van life. Enfin, il y a plusieurs types de van lifers, hein, mais il y a des gens qui vont vraiment à un endroit et qui y restent tout le long. Et c'est un peu une, peut-être aussi une vision du camping de l'époque. Voilà, gros camping-car qui s'installe à un endroit et qui reste une semaine ici. Donc peut-être qu'aussi il y a ce truc-là justement du rejet de cette image du camping-car avec les réseaux sociaux où on est obligé de toujours avoir le meilleur spot tous les soirs, indifférent, un devant la mer, un devant la montagne, et tout le temps bouger, rouler, etc. Et alors qu'au final, bah, c'est beaucoup plus complexe que ça. Enfin, je veux dire, là, moi, j'ai approfondi vraiment la connaissance de l'endroit que j'aimais. Je connaissais finalement pas si bien cet endroit. Enfin, on y avait passé quand même un peu de temps, mais en fait, il y a toujours à découvrir, il y a toujours à voir, il y a toujours à appréhender. En fait, au final, dans ces endroits-là, on peut vivre plein de choses. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette d'approfondir la connaissance de cet endroit. Et si je peux parler aussi d'un moment hors voyage, c'est aussi juste l'endroit où j'habite. Moi, j'habite dans les Vosges, il y a des très belles forêts, je les connais depuis des années. Et il y a un an et demi, deux ans, j'ai décidé de commencer un documentaire photo sur les forêts vosgiennes. Et en fait, j'ai vraiment complètement redécouvert la forêt, j'ai complètement réappris à regarder les forêts que je connaissais depuis presque ma naissance. Et au final, on se rend compte qu'il y a toujours à découvrir aux endroits qu'on connaît, il y a toujours à s'émerveiller, à vivre des choses super intenses, etc. Et donc, pour moi, par exemple, la vision des choses de faire le tour du monde pour vraiment voir tout, etc., c'est du non-sens, parce qu'en soi, on n'a pas forcément besoin de faire le tour du monde pour découvrir plein de choses, pour s'émerveiller, pour apprendre, etc. quoi.
Mais d'ailleurs, ouais, c'est ça que moi qui m'avait beaucoup plu dans ta vidéo, c'est que quand tu retournes dans cet endroit-là, c'est ce que t'expliques à l'instant, c'est que ça t'a vraiment permis d'approfondir la découverte du lieu. Et c'est vrai qu'on a l'impression que peut-être que cette pression à devoir sans arrêt découvrir de nouvelles choses, ça nous empêche parfois en fait de nous pencher plus en profondeur sur certains lieux, ou voire même carrément sur certains aspects de notre vie, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bah oui, typiquement, moi, les Vosges, à chaque fois, au tout début, quand j'ai eu mon permis, je me disais, on va essayer d'aller dans les départements voisins pour découvrir, aller en Alsace, aller ailleurs, enfin, rouler un peu, quoi. J'avais cette liberté, justement, que le permis pouvait m'apporter pour aller découvrir autre chose. Et plus j'avance dans le temps, plus finalement, maintenant, mes week-ends, je les passe ici, parce qu'il y a plein de choses à faire, à voir, et même des endroits que je connais par cœur, en fait. J'y suis allé plein de fois, et pourtant, c'est quelque chose de super intéressant. Après, je dis pas qu'il faut que ma vie ou que la vie soit routinière et qu'on aille tous les week-ends au même endroit, etc. C'est pas du tout ça. C'est que je pense qu'il y a quand même, près de chez nous, des endroits vraiment assez fous à approfondir. Parce que des fois, on les traverse, on les regarde qu'en surface, et notamment les forêts, hein, on suit les chemins et finalement, on fait que marcher. Et des fois, juste s'asseoir en forêt, regarder un peu autour de soi, etc., c'est déjà découvrir autrement le lieu qu'on connaît et qu'on a l'habitude de voir, en fait.
Ouais, et puis, c'est vrai que quand... Parce que, ouais, toi, t'as grandi là-bas et tout, donc c'est vrai que, surtout une forêt, toi, c'est quelque chose qui vit, etc., donc c'est que la forêt que t'as connue quand t'étais petit par rapport à celle d'aujourd'hui, peut-être que si elle a évolué... Ouais. Et puis comme tu es dans la photo avec la lumière, tu vois, t'as toujours des lumières un peu différentes, etc. Donc c'est vrai qu'en fait, tous ces petits détails, enfin ça paraît des petits détails, mais en fait c'est ce qui fait que le regard effectivement évolue à chaque fois, et que tu te dis, bah ouais, en fait, tout autour de chez moi, il y a vraiment des choses qui sont belles à voir, quoi.
Totalement, ouais.
Mais ce qui est, parce que là, ce que j'aime bien dans ton discours, c'est que tu parlais d'émerveillement. On a souvent l'image de l'émerveillement, enfin, tu vois, pour... L'émerveillement, c'est un étonnement qui est accompagné d'une émotion, et que cet étonnement-là vient justement de l'inconnu. Ce que tu dis, ça me rappelle un peu ce que disait par exemple Michael Edward, où il disait que justement il fallait réussir à être ouvert à l'étrangeté du quotidien, quoi, à la part d'étrangeté que le quotidien peut avoir pour arriver à s'étonner du quotidien. Est-ce que toi, tu penses que c'est quand même aussi important, justement, de pouvoir s'émerveiller de ce qu'on connaît déjà, de notre quotidien, et ce qui permet peut-être de pas toujours devoir aller loin ou sans cesse découvrir de nouvelles choses, quoi.
Ouais.
Et ce qui permet peut-être d'autant plus d'appréhender son quotidien, et peut-être même de l'apprécier, quoi.
Ouais, totalement. Et même par rapport au territoire, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur la forêt, j'ai découvert un vieux mythe vosgien, donc que je connaissais pas alors que je suis né ici. Et ce mythe-là, donc bon, je vais pas forcément l'expliquer en détail, mais c'est un mythe qui m'a permis de d'appréhender la forêt un peu différemment. Donc c'est en gros, le mythe, c'est un protecteur de la forêt qui attaquait à l'époque les malfaisants de la nature, donc les voleurs de bois, les braconniers, etc. Donc pour ma série photo, en gros, je me suis réapproprié le mythe pour essayer de justement apporter une dimension un peu plus mystérieuse et aussi, ouais, il y a un truc entre le réel, l'imaginaire, l'imagination, le visible, l'invisible. Enfin, c'est des choses aussi que je vais utiliser en photo. Et je vois que sur mon quotidien, du coup, ça a un impact aussi parce que bah, à la base, ça a une vocation artistique, on va dire, une vision d'auteur sur un projet photo. Mais quand je me balade en forêt, maintenant, je pense que j'ai un peu mystifié la forêt et j'en avais besoin parce que c'est chouette aussi d'avoir une vision un peu forêt enchantée, etc., que j'avais complètement perdu en grandissant. Enfin, je veux dire, ça, on peut l'avoir quand on est enfant, à la limite. Et en grandissant, on voit que les choses rationnelles, on voit que les choses concrètes, utiles, etc., efficaces. Et au final, on perd un peu peut-être le côté un peu poétique des choses. Enfin, la forêt, c'est pas juste un endroit de balade ou alors un endroit où on coupe du bois. C'est aussi un endroit très mystérieux où vivent plein d'animaux qu'on voit jamais, qui sont totalement invisibles mais qui existent pourtant. Donc bon, là voilà, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux parce que j'essaie de parler de ce projet photo, mais dans le quotidien c'est pareil. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'il faudrait qu'on cultive cette petite poésie de la vie plutôt que l'efficacité, l'utilitarisme, etc. quoi.
Mais tu vois, ça me fait penser. Il y avait, nous à la base, on est de Montluçon dans le centre de la France et bon, c'est, généralement, quand tu dis Montluçon aux gens, ça évoque pas grand-chose.
Non, pas grand-chose.
Mais dans cette ville, il y a beaucoup d'ornements sur les bâtiments. Et la mairie avait fait un petit guide touristique où ils racontaient un peu les légendes qu'il y avait derrière les ornements.
Ouais.
Et c'est vrai que tout de suite, tu vois la chose différemment parce que tu te questionnes un peu sur tout ça, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Il y avait, concernant les pressions qu'on évoquait depuis tout à l'heure, moi je me demandais si ces pressions-là justement découlaient pas un peu de notre rythme social, parce qu'en gros la plupart des personnes ont une ou deux périodes de vacances dans l'année, et quand ces vacances arrivent, il faut donc un peu les rentabiliser en découvrant le maximum de choses possibles, mais tout en sachant se reposer. Mais pas trop, car il faut profiter un maximum des vacances. Et donc, en fait, même pendant les vacances, il y a un peu une anxiété aussi de performance, quoi.
Ouais, totalement. De toute façon, dans tous mes projets photos, je pars du... Enfin, tous mes projets, pas tous, mais en tout cas, dans ces projets photos et ces vidéos-là, je pars d'un sentiment qui m'est personnel. C'est-à-dire que ce que je décris, c'est... je travaille toute l'année, je pars en vacances, j'ai une injonction au voyage, j'ai une injonction à rentabiliser mon temps, etc. Mais c'est évident que c'est un problème ou en tout cas quelque chose qui est universel, qui est donc sociétal, qui vient d'un rythme social, ouais, comme tu l'as dit, et qui donc découle d'un système en fait. Enfin, je veux dire, on est dans un système productiviste où on doit produire de la valeur, que ça soit marchande ou même intellectuelle, etc. Enfin, tout type de métier, quoi. Et en fait, on a tellement intégré ce truc-là, un peu libéral, de rentabiliser, de produire, etc., que même sur notre temps libre, on arrive à se foutre la pression là-dessus. Après, du coup, comme tu l'as dit, il y a une espèce de paradoxe. Il y a le truc de soit on s'en fout total et sur notre temps libre, on se dit, au final, on fait plus rien, on se repose et on profite et on fait pas grand-chose en soi. Et en même temps, on a envie de ce temps libre, il est tellement court. Il est tellement... en fait, la majorité du temps, on le passe au travail. Donc, le temps libre est tellement court qu'on a envie de le rentabiliser, entre guillemets, et de faire des choses qui nous plaisent. Donc, que ça soit voyager, que ça soit se balader, faire des projets artistiques, voir ses amis. Enfin, vraiment des choses qui nous font vivre, on va dire. Et du coup, il y a un paradoxe, en fait, entre les deux. Entre si on se repose trop, on culpabilise de ne pas faire assez de choses. Et si on fait trop de choses, on culpabilise de ne pas assez se reposer parce qu'après, on va être fatigué au travail. Donc, oui. Tout découle du système productiviste, on va dire. Et c'est évident que si on n'avait pas cette injonction à la production de valeur, etc., qu'on travaillait moins et qu'on vivait dans un autre système, on aurait beaucoup moins ces questionnements-là, puisqu'on aurait le temps d'expérimenter les deux, en fait. On aurait le temps de créer du lien social, on aurait le temps de faire des activités qui nous plaisent et qui donnent du sens à notre vie, et en même temps, on aurait le temps de se reposer et de contribuer à la société en travaillant un peu. Enfin bref, c'est tout un modèle politique, social, etc., qu'on est en train de revoir ensemble là. Mais dans mes photos, c'est évidemment que je parle de ça. Je pars de ma petite expérience de jeune qui part en camion. Au final, on pourrait se dire c'est assez basique. Mais oui, ça, finalement, les réflexions qui en découlent, c'est parler de la société, de comment elle est gérée, du système, etc.
Ouais, et puis tu vois, mais nous, par exemple, on travaille à côté, mais c'est vrai que dans nos boulots, nous, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de jours de congé par rapport à d'autres. Et c'est vrai que du coup, effectivement, en fait, tous les jours de la congé, on part pas à chaque fois. Des fois, en fait, on reste chez nous, mais du coup, effectivement, t'as moins cette culpabilité de. De te dire, ouais, en fait, je suis chez moi, et puis c'est cool, en fait, et puis t'en profites, justement, pour découvrir de nouveaux trucs dans ta ville.
Ouais, bien sûr, bah oui.
Et c'est vrai qu'effectivement, il y a cette question du temps que les gens ont pour, pour se reposer, et puis pour, quand t'as vraiment envie de découvrir un truc, tu le découvres.
Quoi. Ouais.
Mais d'ailleurs, tu mettais, toi, en légende, dans un de tes posts Instagram, que tu parlais des vacances et tu disais cette liberté devait être accessible à toutes et à tous et surtout tout le temps, pas seulement quelques semaines par an, quoi.
Ouais.
Donc, en fait, on voit bien que oui, tu as cette volonté aussi de toi de dénoncer un peu ce système qui nous empêche un peu de profiter peut-être comme on le voudrait de la vie, quoi.
Ouais. Et je précise bien à toutes et à tous parce qu'en fait, on a parfois des discours sur Internet, notamment des gens qui font des vidéos de voyage, qui font des vidéos de camions, etc., qui dépolitisent totalement et qui enlèvent le contexte de vie des gens dans leurs vidéos. Et le message de la vidéo, c'est si vous voulez vraiment vivre, partez de la ville, partez de vos travaux, balancez votre crédit de maison, etc., et allez vivre en camion, dans la nature, etc., vous verrez mieux. Donc dans l'idée, évidemment, je suis d'accord avec le message, mais en fait là, on est en train de dépolitiser tout, d'enlever le contexte social, sociétal, etc., et on se rend pas compte qu'en fait, on peut pas tous se permettre de le faire, parce qu'il y a des gens qui ont des contraintes financières, qui ont des contraintes, une famille, un handicap, ou juste plein d'autres choses, en fait, plein de contextes qui se rajoutent l'un sur l'autre. Enfin, des fois, c'est imbriqué. Et on a trop de contraintes qui font qu'on ne peut pas se permettre de partir et d'arrêter de travailler, déjà. Bon, enfin, ça paraît évident, mais on est obligé de travailler pour se nourrir et se loger. Enfin, pour les choses indispensables de la vie, on n'a pas le choix que de gagner de l'argent. Donc, forcément, tous ces discours, ça me fait un peu rire parce qu'en fait, être libre individuellement, mais pendant que tous les autres sont enfermés dans un système ou au travail, etc., c'est pas une liberté, en fait. Une liberté, c'est censé être accessible à tout le monde. Si c'est une liberté qui est accessible que à une partie de la population, c'est ce qu'on appelle un privilège, en fait. C'est pas une liberté. Une liberté, c'est étroitement lié à l'égalité en soi.
C'est que nous, enfin, je sais pas si tu connais, on en parle souvent sur les podcasts, mais on est très imprégnés, nous, des travaux de Bertrand Russell.
Non, je connais pas.
Alors c'est un économiste britannique, il avait écrit en fait dans les années 30 un livre qui s'appelle L'éloge de l'oisiveté.
OK.
Et il expliquait que lui en fait au vu du nombre d'humains qu'il y avait sur Terre dans les années 1930, donc on est beaucoup plus aujourd'hui, on pouvait travailler 3 à 4 heures par jour produire les biens et services essentiels au bon fonctionnement de notre société. Et donc c'était un travail qui voyait plus comme une contribution sociale, et puis le reste du temps tu l'avais pour toi, pour tes projets ou pour ne rien faire ou faire des activités qui sont difficilement rémunératrices comme les sciences, l'art ou les choses comme ça.
Ouais.
Et c'est vrai que nous on se reconnaît plus dans une vision comme ça où on donne un peu de temps pour vivre dans un certain confort qui pour nous on en a besoin pour créer certaines choses. Et toi, il y a peut-être des domaines artistiques sans un minimum de confort qu'offre la société, ça aurait peut-être pas vu le jour.
Ouais, bien sûr.
Et donc faire tenir les biens essentiels, enfin les services et biens essentiels de la société, mais après en fait profiter plus de notre temps, quoi.
Ouais. De toute façon, ça c'est évident que la majorité des travaux, du travail qui est produit ou même des valeurs qui sont produites, ne servent à rien du tout. La majorité des choses qu'on produit sont presque intégralement, pas intégralement, mais sont majoritairement jetés ensuite. Enfin, c'est vraiment, je ne veux pas refaire le capitalisme, etc. Mais la majorité des choses qu'on produit, qu'on fait et qu'on dans le monde du travail ne servent pas directement à la société et aux humains directement. Alors que c'est vrai que, comme tu disais, travailler quelques heures pour le bien commun, pour la société, etc., en pensant seulement le côté utile, réellement utile et pas juste faire gonfler les chiffres de la croissance économique ou le PIB ou je sais pas quoi, ça redonnerait en plus du sens au travail, parce que là, enfin, je veux dire, on voit bien qu'il y a une crise du travail, enfin, que ça soit chez les jeunes ou autre, hein, mais moi, autour de moi, tous mes camarades ne trouvent plus de sens à travailler, enfin, à part juste avoir de l'argent pour justement pouvoir partir le week-end ou partir pendant les vacances. Le sens au travail, il est un peu perdu. Enfin, ouais, je pense qu'il est, il est un peu perdu. Et je pense qu'on pourrait vraiment le retrouver si on travaillait moins, mais de manière beaucoup plus utile, de manière beaucoup plus concrète aussi. Enfin, là, on est complètement déconnecté de la chaîne de production, on va dire. On se rend même plus compte de ce qu'on est en train de produire ou de faire, ou on est juste imbriqué dans un espèce de système qui utilise le travail pour la croissance économique et pas pour l'utilité du travail en soi.
Ouais, puis tu te rends compte qu'il y a des secteurs d'activité, enfin, toi, on va prendre un exemple, alors c'est peut-être marginal au niveau de peut-être du nombre d'emplois créés et tout, mais si tu prends tout ce qui est bateau de croisière, on pourrait se dire que bah, ça sert à rien, tu vois, enfin, je veux dire, ça pollue énormément, ça perturbe les cycles de reproduction de certaines espèces marines, et les gens vont sur des gros bateaux au milieu de la mer où il y a des piscines, bah, c'est un peu particulier. Et le problème, c'est que dès que tu attaques ce genre de secteur-là, on va te dire, ouais, mais ça crée de l'emploi. Donc en fait, on se rend compte qu'en plus, ces secteurs d'activité, parce qu'on est dans une vision de l'emploi qui devrait être à temps plein et au centre de notre vie, Ça légitimise en fait, l'emploi légitimise ce genre d'activité, quoi.
Ouais, totalement. Bah, de toute façon, enfin, l'argument de créer de l'emploi, c'est moi j'ai toujours trouvé ça complètement bête. Enfin, je veux dire, on peut créer des emplois à frapper des gens, ou on peut créer des emplois. Enfin, on peut créer des emplois pour tout faire, en fait. Et actuellement, c'est déjà le cas. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, on a découvert le terme bullshit job. Je pense que c'est pas pour rien, c'est parce que la majorité des travails ne servent plus à rien, ou en tout cas. Ont peut-être une utilité dans la tête des gens, mais au final, on pourrait s'en passer, enfin, c'est évident.
Et puis en fait, surtout qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, peut-être que par rapport à la vision qu'on a du travail, ou toi, on s'est peut-être créé plein de contraintes, de problématiques, de responsabilités. En fait, au final, c'est que des constructions sociales, mais qui nous empêchent peut-être d'éprouver un vrai sentiment de vivre, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et moi, j'avais une question, enfin, je pense qu'on t'a un peu répondu, mais il y a des auteurs comme Aurélien Barreau ou Patrick Chamoiseau qui disaient justement qu'il fallait un rééquilibrage entre ce qu'on appelle le prosaïque dans la société, enfin, justement, c'est toutes ces contraintes, toutes ces choses qui sont essentielles pour faire tenir la société. Mais aujourd'hui, en fait, ils expliquaient que si on fait une opposition entre prosaïque et poétique, que le poétique était vraiment mis de côté, que c'était le prosaïque qui avait pris toute la place, et qu'au contraire, il faudrait que le prosaïque soit au service du poétique, que la société soit construite de façon que la vie poétique puisse s'exprimer. Est-ce que toi, tu penses du coup qu'il faut un vrai rééquilibrage entre le poétique et le prosaïque?
Ouais, bah, de toute façon, c'est évident et c'est sûr qu'il y a un déséquilibre total entre les deux, entre une vision ultra utilitariste, efficace, rentable, etc., de toutes les choses, et notamment du temps. Enfin, on en parlait au tout début, mais le temps doit être rentable aussi. Et entre le poétique qui est du coup moins concret pour le système, pour la production de valeur et et même dans la tête des gens, parce que de toute façon maintenant, ça fait des années, hein, mais c'est imprégné dans la tête des gens. Donc forcément, la poésie, on va dire, pour les gens, c'est quelque chose qui est pas concret, qui est donc pas, ouais, qui est pas efficace pour avancer, etc. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est quand même quelque chose de nécessaire et presque de vital. Enfin, je parlais de la forêt tout à l'heure, je vais paraître un peu utopiste, mais aux yeux de la société capitaliste, observer un arbre et faire des photos de cet arbre pendant, 30 minutes, une heure, ça va être du temps complètement perdu, pas du tout rentable et j'aurais rien produit, etc. Mais à mes yeux, à moi, du coup, j'inverse un peu les rôles parce que je vais utiliser le mot utile ou le mot rentable. Mais pour moi, c'est ultra rentable et très utile parce que ça va me faire du bien, ça va me questionner, ça va me donner des idées, ça va m'inspirer. Enfin, ça va faire plein de choses. Alors après, encore une fois, là, j'ai une vision libérale et utilitariste du temps, mais en même temps, on peut aussi retourner la situation en disant que même des trucs qu'on considère comme inutiles et ou poétiques, ça peut être utile d'un certain point de vue, en fait. Alors là, j'utilise le point de vue artistique, mais au final, il y a sûrement plein d'autres choses.
Ouais, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'on a une vision de ce qu'est la poésie ou de ce qu'est le poétique un peu... bon, c'est le truc un peu joli qui, on va dire, qui, c'est la petite cerise sur le gâteau dans notre vie, mais en fait, on se rend compte que la poésie a eu, en fait, à toute époque, un certain impact, même politique. Enfin, moi, je pense, tu vois, il y avait un auteur américain qui s'appelait Langston Hughes, lui, qui était un poète afro-américain et qui écrivait vraiment des textes très engagés sur le combat des Noirs à l'époque aux États-Unis.
Ouais.
Et ces textes ont vraiment imprégné ces combats-là à l'époque, et ça a vraiment soudé les mouvements contestataires, et ça a permis justement de faire avancer des choses. Et, donc on se rend compte qu'en fait la poésie ou la vie poétique en général peut avoir un vrai impact politique aussi, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Bah, y a toute cette question-là aussi dans le milieu écolo, de se dire, est-ce qu'on réutilise pas justement cette vision un peu politique, poétique, pardon, je sais pas ce que j'ai dit, mais un peu mystique, un peu enchanté de la nature pour essayer de la préserver. Alors c'est un débat, c'est une question, à quel degré on l'utilise ou pas, mais se dire aussi, on ne défend pas la nature que parce que elle est utile à notre survie, mais aussi parce que elle est belle, parce qu'elle nous apporte des choses, parce que il y a quelque chose d'encore plus grand que l'utilité des arbres, etc. Et moi, avec ma série sur la forêt vosgienne, c'est un peu ce que je questionne aussi avec le mythe. C'est-à-dire que, est-ce que le mythe pourrait être réapproprié par les militants écolos aujourd'hui pour défendre la forêt vosgienne? Est-ce que justement, ça a un intérêt d'essayer de réenchanter la forêt et de faire qu'il y ait d'autres raisons aussi de la défendre et de la trouver belle? Moi, c'est vraiment des questions qui m'intéressent. J'ai pas forcément de réponse sur l'intensité ou pas. C'est vrai que des fois, on a la caricature du militant écolo qui est à fond justement dans la mystification et qui finalement est plus du tout concret et plus du tout les pieds sur terre. Mais je pense qu'un entre-deux, c'est super intéressant. Et t'as dit Aurélien Barreau tout à l'heure. Pour moi, c'est quelqu'un d'intéressant là-dessus parce qu'il va être très concret scientifiquement. Et il va savoir s'émerveiller aussi de ce que la nature peut nous apporter, etc. Donc je pense que faire la part des choses entre les deux, ça peut être super utile, et de pas être que scientifique et que rationnel sur des chiffres, parce que finalement on défend juste des chiffres, c'est-à-dire on doit rester à ce degré de température, à ce truc de biodiversité, mais aussi de voir que derrière les chiffres, il y a de la vie, il y a des expériences, il y a plein de choses, quoi.
Ouais, puis en plus c'est intéressant que justement un mec comme Aurélien Barreau ait ce discours-là, sachant que lui en plus il est scientifique, donc ça apporte vraiment en plus ce truc-là, en plus comme c'est lui qui le dit, tu te dis c'est possible au final.
Quoi. Je trouve que ça aussi, ça poétise la science et la science, on va dire. Je n'ai pas envie de dire sérieux, mais concrétise un peu la poésie, quoi.
Ouais, c'est
que
vrai.
Les deux se marient bien, quoi.
Les deux se complètent, ouais, bien sûr.
Et est-ce que toi, justement, tous les questionnements qu'on a évoqués là et que tu exposes à ton travail ont une influence dans ta manière même de pratiquer la photographie ou la vidéo? Alors, on voit que tu traites certains sujets, mais même dans ta façon peut-être techniquement de faire de créer, quoi.
C'est une question intéressante. Je pense que oui, c'est évident que je pense que la photographie et la vidéo, moi c'est une question de vision, d'approche, et finalement la technique on l'oublie assez vite. Et par rapport à mon approche et à mon propos, moi dans mes séries, c'est évident que je vais par exemple pour du documentaire, donc le documentaire c'est censé être quelque chose d'assez rigoureux, qui est normalement assez neutre, enfin je dis normalement, mais qui se voudrait assez neutre, etc. Et moi c'est pas du tout le cas, vous l'avez bien compris depuis le début, quand je traite un sujet je vais forcément amener de ma personne, je vais forcément apporter ma vision des choses, je vais aussi essayer de témoigner aussi des sensations, donc c'est peut-être un peu compliqué de comprendre ça, mais je veux dire, par exemple, j'ai fait un reportage sur un éco-village et plutôt que d'être extrêmement factuel, documentaire, rigoureux, etc., je me suis un peu laissé prendre par ce que je ressentais par le lieu, par les personnes qui l'habitaient, etc. Et ensuite, à partir de ce sentiment-là, donc un espèce de sentiment de liberté aussi, d'une autre manière de vivre, etc., enfin vraiment quelque chose de très différent que j'avais pas l'habitude de connaître, dans les photos, je pense que ça se ressent dans le sens où j'ai essayé de prendre le contre-pied du documentaire un peu classique, rigoureux, et de faire des images un peu plus rêveuses, des images un peu douces, avec des gens qui se sentent bien, des petites mises en scène de personnes qui ferment les yeux, qui sont détendues, etc. Et typiquement, là, pour mon gros projet sur la forêt, je parle beaucoup de ça, mais parce que ça fait un an et demi, deux ans que j'ai commencé, et je suis encore dedans. Dans ce projet-là, c'est vraiment le mélange entre la fiction, l'imaginaire et le documentaire. Et pour moi, c'est pas incompatible. C'est-à-dire que je documente une réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est que la forêt vosgienne, bah, y a des enjeux, il y a une gestion forestière qui est organisée et que je questionne et que je documente. Il y a aussi des problématiques, sécheresse, réchauffement climatique, maladies des arbres, etc. Et en même temps, je mêle tout ça à de la fiction, à de l'imaginaire, à quelque chose de plus poétique, à des images un peu sombres, à des... et pour moi, du coup, c'est évident que c'est influencé par ma vision des choses. Que c'est mon propos et ma vision des choses qui influencent ensuite l'esthétique et la manière dont je traite le truc dans mes images à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'à l'expo, quand on va voir les images, on va tout de suite ressentir ce que j'ai voulu au départ montrer.
Et c'est vrai qu'on a tendance, enfin, surtout dans des travaux comme ça, c'est que, enfin, tu disais, ouais, de cette partie documentaire, c'est plutôt après reportage ou vraiment de fiction, mais c'est vrai qu'on a, c'est peut-être aussi après ce qui a appris dans les écoles, mais vraiment à distinguer à chaque fois chaque partie.
Ouais.
Alors qu'au final, bah, c'est toi qui fais ton projet, puis si t'as envie de mélanger en fait un peu tout ça, ouais, t'es
ouais.
Justement, c'est là que t'as cette liberté de créer après et puis adapter à ton propos au final.
Mm-hmm.
Puis ce qui est intéressant, c'est justement on parlait de prosaïque poétique, mais quand toi tu traites des sujets, enfin, qui sont assez important, et justement avec ta vision plus poétique, tu mélanges un peu déjà avec ton travail ces deux aspects.
Ouais, c'est vrai, tu me le fais remarquer, mais oui, parce qu'en gros, pour expliquer un petit peu moi comment je procède, c'est-à-dire qu'en gros je rencontre des acteurs de la forêt, je fais un entretien, donc un peu comme on est en train de faire, sur des sujets très ciblés, pendant une heure ou deux, avec la personne, donc que ça soit des agents de l'ONF, que ça soit des bûcherons, des scientifiques, des militants écolos, etc. Donc je me documente et donc c'est un peu la partie documentaire très rigoureuse où j'essaye d'être vraiment exact sur ce qui se passe dans la forêt vosgienne, comprendre pourquoi les arbres sont malades, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, à qui appartient la parcelle, comment elle est gérée, qui finance, enfin bref, c'est vraiment très concret. Et à la fois dans les images finales, bah il y a beaucoup de mystères, beaucoup d'invisibles, beaucoup de choses qui sont finalement plus poétiques, on va dire. Enfin, ouais, on peut dire que c'est un peu plus poétique. Et oui, le lien est quand même présent, c'est-à-dire qu'on a la rigueur du documentaire et la poésie de la fiction.
Et finalement, ça se marie assez bien, quoi.
Ouais, bah, j'espère en tout cas. Enfin, je travaille dessus, mais oui, je pense que ça va fonctionner.
On avait une dernière question. Alors, tu me dis si je dis une bêtise, mais tu as fini tes études en 2022.
Ouais.
Et sur ton site, à travers une série photographique, tu te questionnes sur le passage à l'âge adulte. Alors aujourd'hui, on est en 2025, et au regard de tes expériences, tu vois, de tout ce que tu as vécu, et là, de ce qu'on a aussi, ce qu'on a questionné, comment tu définirais aujourd'hui ce qu'est être adulte ?
Oui, c'est vrai que c'était un moment assez marquant pour moi, le passage à l'âge adulte, en tout cas... C'est pas forcément le passage à l'âge adulte, mais c'est aussi le grand vide de décider de sa vie, c'est-à-dire finir les études et devoir emprunter un chemin quelque part, et en sortant d'études, en fait, on sait pas où on va. Donc ce que c'est d'être adulte, bon, je vais quand même dire les sortes de points négatifs, hein, parce que il y en a. C'est évident que le monde des adultes, c'est un monde qui est un peu monotone, un peu routinier, qui est rempli de contraintes que le monde des enfants n'a pas forcément. Enfin, ça dépend de l'enfance, évidemment. Il y a plein d'enfants qui vivent des enfances terribles, mais moi, c'était pas mon cas. Mais ouais, des contraintes, bah, forcément financières, de travail, de payer le loyer, l'électricité, les factures, etc. Enfin, bon, des choses assez concrètes pour tous les adultes, mais quand on découvre ça, c'est assez, assez flippant. Et au-delà de ça, oui, il y a une routine qui s'installe très rapidement, je trouve, beaucoup plus que quand on est en études ou quand on est quand on est encore enfant, parce que quand on est enfant, on découvre le monde, on a des amis qu'on voit souvent, soit à l'école, soit ailleurs, mais voilà, on a ces choses-là qui font que la vie est un peu moins routinière, il se passe toujours des trucs un peu rigolos, on se marre. Et dans le monde des adultes, c'est un peu moins le cas. C'est toujours les mêmes journées, c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit, les collègues de bureau, etc., qui sont très sympas. Mais c'est un cadre qui fait que le lien social est pas aussi libéré qu'avec des amis. Et donc forcément, on peut en tirer du négatif. Là, ma conclusion est très négative, mais en même temps, évidemment, il y a des libertés qu'on découvre aussi en étant adulte. Enfin, l'indépendance, ne plus dépendre des parents, avoir le permis, c'est évident que c'est des libertés que moi j'ai découvertes et qui sont vraiment importantes pour moi aujourd'hui. Et au-delà de ça, donc j'ai fait cette série en disant je deviens adulte. Mais depuis, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est surtout de redevenir enfant, ou alors en tout cas de retrouver des choses que je faisais quand j'étais enfant, c'est-à-dire m'émerveiller de choses un peu banales et basiques, et juste essayer de redécouvrir le monde avec une autre vision, m'amuser beaucoup plus, essayer de voir plus mes amis, parce qu'il y a eu une période de ma vie où je travaillais, j'étais fatigué, j'avais du mal à sortir, etc. Et maintenant, j'essaie de beaucoup plus le faire, parce que je me rends compte que c'est que comme ça que j'arriverai à m'en sortir, en tout cas au niveau du moral. Donc oui, devenir adulte, c'est aussi essayer de récupérer ce qu'il y avait de bien dans l'enfance pour les compléter avec ce qui est de bien, ce qui est bien d'être avec le monde des adultes, hein, la liberté, l'indépendance, etc. Et de faire un mix entre les deux pour avoir une vie assez chouette finalement et pouvoir profiter complètement de l'existence.
Mais c'est vrai que ça nous plaît assez bien. On s'était questionné aussi dernièrement pour des projets sur ça. Et c'est vrai qu'on se disait que quand on était gamin, il y avait une sorte de légèreté de l'être qui existait, dans le sens où qu'on voulait faire un truc, on se posait pas forcément la question de savoir si, tu vois, justement, on parlait de rentabilité, si ça va être rentable dans un futur, quelque chose comme ça. En fait, on faisait le truc parce qu'on avait envie de le faire.
Ouais.
Et c'est une chose. Je trouve qu'on a un peu perdu quand on devient adulte, parce qu'on se questionne peut-être un peu trop. Et nous, on en avait conclu que justement être adulte, c'était réussir à retrouver cette forme de légèreté de l'être, mais tout en fait en la complétant avec avec une certaine compréhension du monde qu'on a quand on est plus vieux.
Ouais.
Et donc réussir à compléter cette légèreté de l'être avec nos questionnements plus adultes pour en fait pour créer un peu des formes d'expression avec de façon collective, quoi.
Ouais, totalement. Et même sur ce qu'on disait au début, c'est vrai que sur le fait, par exemple, d'aller toujours au même endroit, etc., que c'était devenu une injonction de ne plus faire, je trouve qu'il y a des choses qu'on faisait quand on était enfant. Par exemple, s'émerveiller d'un insecte, toujours le même, et d'aller toujours le voir, ou d'un arbre, ou d'un jeu qu'on referait tout le temps à l'infini, ou même d'un film qu'on regarderait plusieurs fois. Dans le monde des adultes, on essaie de pas faire ça, de toujours... de pas s'attarder sur des choses qu'on connaît déjà, alors qu'en fait je pense que c'est les enfants qui ont raison, et que s'attarder sur des choses et de creuser, d'aller en profondeur dans les choses réellement et de mieux les connaître, de mieux les aimer, etc., c'est encore mieux. Enfin je le découvre vraiment avec la forêt. Au final, je pensais connaître la forêt parce que je la connais depuis toujours, mais en créant ce documentaire là je découvre des milliards de choses, que ça soit sur son fonctionnement, sa gestion, mais aussi sur plein d'autres choses, sur son histoire, son passé, etc. Enfin, il y a plein de choses que je découvre en creusant un peu et en approfondissant un petit peu le lien que j'ai avec la forêt, quoi.
Je pense que ça nous fait une bonne conclusion.
Bah, super.
Et merci Arthur.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci, ouais.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur ghost.sincenothing.com, rubrique blog, pour découvrir le travail d'Arthur ainsi que le collectif Matin Rose sur Instagram, sur son site et sa chaîne YouTube. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que vous trouverez dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de SinceNothing en tapant sins.nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés, et à bientôt.